Radio Okapi. Jeune.
À Kinshasa, la jeunesse se forme et s'adapte aux exigences du monde numérique. Du 26 au 28 mars 2026, la communauté U-Report et la plateforme Digital Skills ont organisé un premier bootcamp comprenant un atelier intensif de formation dans la commune de Limété. Une initiative qui a réuni des dizaines de jeunes, notamment du district de la Funa. Pendant 3 jours, les participants ont suivi des formations pratiques avec un objectif clair. Renforcer leurs compétences professionnelles et numériques pour mieux s'insérer sur le marché de l'emploi. Au programme, intelligence artificielle, design graphique, montage vidéo, photographie ou encore création de contenu. Les jeunes ont également été formés à la construction de leur image et de leur identité professionnelle, ainsi qu'au networking, autrement dit le développement des relations utiles dans le monde professionnel. Au-delà des apprentissages, ce rendez-vous a aussi été un espace d'échange, de partage d'expériences et de motivation entre jeunes et professionnels. Une première édition que les organisateurs souhaitent étendre à d'autres districts de la capitale. Mais concrètement, dans un contexte où les réseaux sociaux sont aujourd'hui inondés de contenus et de créateurs de tous horizons, en quoi ce type d'initiative peut-il réellement faire la différence et transformer le parcours professionnel des participants, mais aussi celui des nombreux jeunes en République démocratique du Congo? Nous en parlons dans ce magazine 100% Jeunes avec Emmanuel Kabamba, gestionnaire du bootcamp et chargé des projets Digital Skills, Ruben Bongambo, participant et coordonnateur U-Report Kalamu Funa, ainsi que Rebecca Molanga, participante et U-Reporter à Kalamu. Pierre Diassinois assure la mise en onde de cette émission réalisée par Sephora Mpaka, à la présentation Grâce à Mzati. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue encore dans votre magazine des jeunes, 100% jeunes sur Radio Capi, la fréquence de la paix. Une soixantaine de jeunes ont pris part du 26 au 28 mars 2026 à Kinshasa à un atelier de formation organisé par U-Report et la plateforme Digital Skill. Pendant 3 jours, ils ont été formés aux compétences numériques et professionnelles pour mieux se positionner sur le marché de l'emploi. Pour en parler, nous recevons Emmanuel Kabamba, gestionnaire de ces programmes et chargé des projets Digital Skills, Ruben Bongabo, participant et coordonnateur U-Report Kalamu Funa, ainsi que Rebecca Molanga, participante et U-Reporter à Kalamu.
L'invité.
Emmanuel Kabamba, bonjour.
Bonjour, Monsieur Grasse.
Bienvenue dans 100% Jeunes, votre émission des jeunes sur Radio Capi.
Merci et content d'être avec vous.
Merci. Alors, Ruben Bongambo, bonjour et bienvenue.
Bonjour, Monsieur Grasse, merci.
Et enfin, nous avons Rebecca Molanga. Bonjour Rebecca et bienvenue dans votre émission des jeunes.
Merci beaucoup, Monsieur Grasse. Bonjour.
Alors, nous allons commencer avec les gestionnaires même du projet, les projets qui consistent à sensibiliser les jeunes sur plusieurs matières, notamment le numérique. Emmanuel Kabamba, d'où vient cette idée de sensibiliser les jeunes? Qu'est-ce que vous avez pu constater dans la société, particulièrement chez les jeunes?
Merci, Monsieur Grasse, pour cette question. À la base, déjà, l'entreprise dont je suis le chargé des projets, c'est Digital Skills. Digital Skills, c'est en anglais. En français, ça signifie les compétences digitales. Nous avons fait un constat, comme nous collaborons souvent avec les plateformes U-Report, on a constaté lors des activités que les jeunes ont besoin d'apprendre les compétences numériques et ils ont besoin de mettre ces compétences numériques en pratique. Et voir que dans la ville de Kinshasa et voir même dans d'autres pays que beaucoup de jeunes sont en manque de ces connaissances, on a voulu donner solution à ces problèmes. C'est pourquoi nous avons mis en place le bootcamp à Kinshasa, dont on doit pouvoir passer dans 4 districts.
Et en des termes un peu plus clairs, Emmanuel Kabamba, parce que quand on entend parler de bootcamp, on s'est dit, mais c'est quoi même cette histoire-là? En des termes simples, qu'est-ce que cela veut dire?
Ok, le bootcamp, c'est une formation intensive, courte et très pratique, dont l'objectif n'est pas de transmettre la théorie aux gens, mais de leur transmettre des compétences pratiques. Cela peut se faire dans un jour, durant 4 heures, 5 heures, ou sur 3 jours ou 2 jours. C'est ça.
Pourquoi avoir choisi cibler les jeunes du district de Funa?
Comme je venais de vous le dire, c'est un problème général. Comme nous avons choisi Kinshasa, Kinshasa a plusieurs districts, Et le bootcamp sera sur les 4 districts dont nous avons débuté par les districts de Founa, parce que c'est les districts qui étaient prêts et c'était le district de lancement.
Entrons dans le vif du sujet. Mmh. Il était question de dire quoi à tous ces participants, à tous ces jeunes. C'était quoi le contenu principal de matière dispensée aux jeunes pendant 3 jours, je rappelle.
Exactement. L'objectif, c'était de transmettre les compétences numériques. Et durant les 3 jours passés avec les jeunes de Founa, nous les avons transmis des compétences numériques absolues qui a commencé à leur aider depuis le premier jour. Le premier jour, nous avons pu leur montrer c'est quoi les storytelling, donc comment apprendre à se vendre grâce à des histoires, mais dans le domaine numérique. Et après, on les a appris comment prendre des très bonnes photos et réaliser des très belles vidéos depuis son smartphone, alors qu'on manquera des matériaux sophistiqués. Et les jeunes étaient hyper contents. Et les deuxièmes jours, nous avons parlé sur le personal branding, l'importance de bien gérer son image quand on est sur Internet ou dans la vie de tous les jours. Et on les a encore appris des notions sur la communication digitale et le marketing sur sa personne très efficace, ce qui pourrait les permettre de se vendre au niveau provincial, national et à l'international. Et les derniers jours, nous avons parlé sur comment créer des CV optimisés et comment créer des lettres d'emploi très efficaces. Et à la fin, nous les avons appris l'intelligence artificielle, comment ça peut révolutionner leurs compétences actuelles, comment ils peuvent utiliser l'IA dans l'optimisation des lettres, des CV, et comment ils peuvent maîtriser les prompt engineering. Mais la première chose qu'on les a montré, c'était c'est quoi d'abord l'IA. Parce qu'on ne peut pas utiliser l'IA si on ne connaît pas comment ça marche du début jusqu'à la fin.
Vous avez parlé du premier point concernant comment se vendre sur les réseaux sociaux, en des termes simples. Mm-hmm. Et vous avez été en même temps formateur. Au-delà du fait que vous êtes le responsable du projet, vous avez été aussi où vous êtes formateur. De manière brève, comment tous ces jeunes-là, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les jeunes de Founa, ce n'est pas seulement les jeunes de Kinshasa, ce sont les jeunes de partout en RDC, à Lubumbashi, à Goma. Qu'est-ce que ces jeunes-là doivent retenir sur comment se vendre sur les réseaux sociaux de manière résumée, de manière brève?
De manière brève et résumée, on les a appris d'abord comment se construire la réputation. La réputation s'est construite par le fait de vendre ce que l'on sait faire. Donc, supposons que tu sais construire une maison, alors que sur Internet, on ne sait jamais que tu sais construire une maison. Et carrément, tu n'aurais pas à avoir beaucoup de clients. Alors, comment se vendre? Il faut savoir comment bien prendre photo de ce que tu fais, comment bien réaliser une courte vidéo sur ce que tu fais, dans l'objectif de le mettre sur Internet, que ce soit les réseaux sociaux. Et une fois que ces derniers est sur Internet, comme ça, tu peux avoir des clients qui vont solliciter les services par rapport à ces dévouements et ces savoir-faire que tu as, qu'ils ont envie exposer sur Internet. Et surtout, côté crédibilité, on ne peut pas tourner un deepfake, le mettre sur Internet alors qu'on n'est pas capable de faire ce travail-là. Donc on a misé sur ça et beaucoup d'experts spécialisés dans le domaine, par exemple Christian Mokili, qui était l'un des coachs qui les a appris le storytelling, et nous avons eu Christian Lejeune aussi qui les a appris la communication digitale, et Alain Bizi, comme il est spécialisé dans le personal branding, il leur a donné des bons conseils. Et à la fin, on a eu beaucoup de résultats dans le groupe et même sur nos pages Facebook, ce qui a montré qu'ils ont pris la notion de se vendre en ligne et ils ont maîtrisé la compétence. Et le futur, je crois, sera plus mieux pour eux et pour d'autres jeunes, bien sûr, de la République qui auront le droit d'y participer.
Aujourd'hui, tous les jeunes, ou la majorité, beaucoup de jeunes ont des téléphones, ont des ordinateurs. Mais parfois, on se pose la question, on peut être sur les réseaux sociaux, c'est quel genre de contenu qu'on peut mettre en ligne, qu'on peut publier pour se vendre? Quel genre de contenu, par exemple? Moi, je suis journaliste, je suis Grace Hamzat, je suis journaliste. C'est vrai, il y a des gens qui me connaissent en tant que tel, parce que on m'entend, on m'écoute à Radio Capi. J'ai des publications vidéo, visuelles sur les réseaux sociaux, généralement pour le compte des Radio Capi. Mais ces autres-là qui ne sont pas journalistes, par exemple, vous, Emmanuel, par exemple, vous n'êtes pas journaliste, c'est quel genre de contenu que vous pouvez exploiter pour attirer le monde, pour que, parce qu'ici l'objectif, vous avez dit, c'est l'employabilité.
Exact.
Comment gagner à travers le numérique, à travers tout ce qui se passe en ligne. Mm-hmm. Par exemple, quel genre de contenu que vous pouvez proposer à tous ces jeunes qui nous écoutent un peu partout en RDC?
Excellent. Moi, personnellement, je suis un chercheur en intelligence artificielle et analyste et junior en cybersécurité, certifié Cisco. Les contenus peut-être que je publie pour vendre mes compétences en IA, c'est des contenus sur des solutions que je donne. Peut-être comment créer des deepfakes avec l'IA, peut-être comment sécuriser son téléphone, comment sécuriser son ordinateur parce que je suis dans le domaine. Je vends la compétence que j'ai parce que c'est sur base de cette compétence que je vends que les gens pourraient me contacter pour venir acheter ce que j'ai comme compétence. Alors les jeunes aussi, quand on les a transmis ces compétences, on a dit, ouais, vous pouvez créer une courte vidéo sur un service que vous rendez. Vous voyez, une vidéo claire, naturelle et authentique, vous partagez sur les réseaux sociaux. Soyez-en certains sûrs que ce que vous avez dit, vous êtes capable de le faire parce que vous vendez ce que vous avez en vous. Alors, tous les contenus, les tests, les audios qui seront sur vos réseaux sociaux seront dirigés que sur vos compétences, c'est-à-dire sur ce que les personnes peuvent acheter chez toi comme connaissances ou savoir-faire. C'est de cette façon que nous les avons conseillés et beaucoup parmi eux, ils ont appris à créer les affiches avec Canva, ce qui les a aidés et beaucoup commencent déjà à les publier. Je crois que les participants qui sont ici auront le temps à vous dire ce qu'ils ont pu vivre comme merveille lors de ces bootcamps.
Bien noté, cher Emmanuel, vous avez parlé de la construction d'une identité professionnelle solide et compétitive. Exactement. Sur les réseaux sociaux. Un petit conseil à tous ces jeunes qui cherchent justement le travail sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup que nous recevons, beaucoup d'experts aussi en numérique, estiment qu'aujourd'hui cet espace constitue une très belle opportunité d'emploi. Un petit conseil avant de poursuivre l'émission avec les autres intervenants.
Ouais, un petit conseil que je donnerai à tous les jeunes de la République démocratique du Congo est de prendre conscience de la réputation qu'on est en train de vendre sur les réseaux sociaux. Bien sûr, notre métier pourrait être d'être influenceur, mais on est influenceur avec quel type de contenu? Alors, notre objectif, on est peut-être mançon, oui, mais on est mançon avec quel type de contenu? C'est seulement des danses des hanches ou bien c'est ce que l'on sait faire en construction qu'on vend? Alors, les jeunes doivent faire attention aux catégories de leur contenu, miser beaucoup à vendre ce qu'ils savent faire. S'ils savent parler Kikongo, Lingala, Swahili, pourquoi pas miser même à vendre cette compétence qui est en langue qu'ils ont, au lieu de créer des contenus ou de suivre les délires, hein, comme on les dit de tout le monde, parce qu'il y a telle chanson qui fait délire sur TikTok, ah c'est moi aussi qui danse, c'est pas mal d'être en délire, mais misons surtout sur des contenus de qualité, ça vend notre savoir-faire et ça vend bien aussi les pays à l'international ou au niveau national. On sait que là-bas, c'est des bosseurs. C'est à l'exemple, même en Chine, vous verrez tous les contenus qui passent sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, ce sont des contenus à caractère éducatif. Même un petit enfant, quand il publie une vidéo, derrière cette vidéo, même si c'est des blagues, il y a une leçon de vie à tirer. Alors tous les jeunes, moi également, nous pouvons nous donner les devoirs de publier des contenus qui auront à éduquer et à vendre notre savoir-faire. Et ça, ça va faire évoluer et les pays et notre communauté et on sera crédible partout.
Très bien, nous allons revenir à vous Emmanuel. Il est temps pour nous d'écouter aussi Ruben Bongambo. Entre temps, Rebecca patiente encore. Je sais que vous allez aussi beaucoup parler dans cette émission. Alors Ruben, Emmanuel vient de soulever un point important par rapport à ce qu'il a appelé influenceur. Vous êtes des Uripot, coordonnateur des Uripot au niveau des Kalam Funa. Vous êtes leader communautaire. Vous sensibilisez parce que je sais que les activités que vous menez très souvent, ce sont des sensibilisations sur différents sujets qui touchent la communauté. Aujourd'hui, au-delà d'être participant à cette formation, quel constat pouvez-vous dresser ou établir par rapport à ces phénomènes d'influenceurs sur les réseaux sociaux, surtout chez les jeunes?
Merci beaucoup, Monsieur Grasse. Ces phénomènes d'influenceurs a vraiment plusieurs casquettes, comme on peut les dire, et surtout pour nous, les jeunes. Et aujourd'hui, nous pouvons les remarquer que la plupart des jeunes sont souvent influencés par les tendances des influenceurs sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes ne manquent pas de téléphone. Donc, on peut voir sur 100 jeunes, au moins 90 jeunes ont déjà leur smartphone et ils passent le long de leur moment au téléphone. Si c'est pas pendant la journée, parfois le soir, les jeunes prennent toujours le temps de passer sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les informations. Et moi, en tant que leader de la communauté Ureport Kalam particulièrement, je suis là pour avoir une vision plutôt stratégique axée sur notre détermination en tant que reporter. Tout d'abord, nous sommes là pour prôner l'engagement citoyen ainsi que les changements de comportement. Et moi, en tant que leader, autour de moi, il y a plus de 100 jeunes qui sont les reporters de Kalamu. Je dois être ces jeunes-là qui doit influencer ces jeunes-là positivement. Donc, je dois leur dire, en tant que citoyen, que devons-nous faire? comment devons-nous être influencés? Comment pouvons-nous aussi influencer les autres à emboîter les pas sur ce que nous faisons? Et justement, comme vous venez de le dire, nous parlons sur plusieurs sujets. Il y a la santé publique, l'éducation. Voilà pourquoi, en tant que leader de la communauté, je suis là pour aider les autres à voir que certainement qu'il y a des influenceurs qui essaient un peu de dérouter avec des contenus qui ne sont pas trop bons pour les jeunes. Moi, je dois être là pour les aider à être différents de ces autres jeunes-là, à avoir un changement de comportement pour que nous soyons ces jeunes-là, quand on nous voit dans la société, qu'on puisse dire vraiment, en tout cas, voici ces jeunes-là, lui, c'est un reporter. Voilà comment il se comporte. Voilà comment il respecte les autorités. Et voilà comment il prône même des changements positifs. Voilà comment il parle en bien pour d'autres jeunes. Et voilà comment il influence d'autres jeunes à acquérir des compétences gratuites pour pouvoir être utile à la société.
Et comment vous faites pour atteindre tous ces jeunes-là dans le cadre justement de vos campagnes de sensibilisation sur ces changements-là de mentalité, notamment ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux? Comment vous faites?
Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, nous avons notre façon de faire. Nous travaillons d'abord sur terrain, mais aussi au niveau des réseaux sociaux. Comment nous travaillons sur terrain? Sur terrain, nous sommes à Kalamu et nous habitons à Kalamu. Nous parcourons les avenues avec les messages, nous faisons des visites à domicile et nous faisons aussi des visites aux écoles justement pour permettre à ce que les élèves puissent déjà avoir une idée sur qui sont les reporters et les reporters parlent de quoi. Ils sont axés sur quoi? Quelles sont les valeurs que les reporters peuvent transmettre? Et au niveau des réseaux sociaux, la plupart parmi nous ont Facebook, WhatsApp, Instagram et tout autre réseau social. Et c'est justement à travers ces réseaux sociaux que nous, les jeunes, et TikTok aussi, que nous profitons à ces réseaux sociaux-là pour faire passer des messages positifs, pour aider les autres jeunes à comprendre qu'on peut être jeune et se laisser influencer par ce qui est nécessaire pour la société plutôt que de pouvoir promouvoir des contenus, par exemple, obscènes. Nous ne sommes pas dans ça. Donc, nous sommes ces jeunes-là qui travaillent et sur terrain et sur les réseaux sociaux. Oui.
Et voilà, peut-être celui qui nous suit à Kasumbalès peut se poser la question, mais c'est qui encore celui qui s'appelle U-Reporter ou les U-Reporters? Ils sont qui? C'est quoi la réponse?
Oui, merci beaucoup. Hein. Les U-Reporters, tout d'abord, U-Report, c'est une plateforme bénévole créée par UNICEF pour permettre justement aux jeunes de s'exprimer. Donc, pour devenir U-Reporter, en bref, c'est tout jeune qui décide de prendre le devant pour faire de son engagement au profit de sa communauté. Donc, pour avoir des actions positives au profit de sa communauté. Par exemple, on peut être à Kasumbalesa, on se décide de devenir reporter. Il y a justement un moyen pour devenir reporter pour ceux qui ont des téléphones. Donc, on envoie Go par SMS au 101. Peu importe les réseaux qu'on utilise. Et puis, c'est gratuit. Quand on envoie Go par SMS, on s'enregistre d'une manière anonyme. On devient reporter. Et quand on devient reporter, nous avons des engagements en tant que reporter. Nous avons une charte avec 8 engagements en tant que reporter. Et parmi ces engagements, par exemple, il y a l'engagement qu'on dit d'informer. Donc, tout ce que nous faisons, que ce soit sur terrain ou sur les réseaux sociaux, nous devons informer pour influencer positivement d'autres jeunes à nous suivre.
Alors, nous allons prendre Rebecca Molanga. Vous avez été participante, au-delà d'être membre de U-Report. Vous avez appris comment construire son identité professionnelle sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez à dire, à transmettre aussi à tous ces jeunes qui nous écoutent un peu partout?
Ok, merci beaucoup, Monsieur Grasse, pour la question. Ce que j'ai appris pendant les bootcamps, c'était le personal branding. Avec le personal branding, ça nous aide à bâtir une image qui est beaucoup plus professionnelle au niveau des réseaux sociaux. Et nous avons exploré la plateforme Leading pour créer une image de marque. Nous avons créé un compte professionnel et nous avons pu établir toutes nos compétences, les compétences, expérience, notre engagement en tant que jeune, reporter, et c'est un peu ça.
Et donc, il faut utiliser tous ces réseaux sociaux-là pour influencer positivement.
Oui.
Et positive. Non pas en dansant. Mais il y a un constat, je pense que c'est Emmanuel qui va répondre à cette question en tant que formateur. Emmanuel, je pense que vous serez d'accord avec nous, parce que nous observons aussi ça, ouais, que souvent, ce sont ces jeunes ou ce sont ces gens qui publient des contenus qui ne sont pas éducatifs, des contenus peut-être provocateurs, mm-hmm, qui ont plus de visibilité par rapport à vous qui venez avec un contenu entre guillemets sérieux, c'est-à-dire vous venez montrer aux gens par exemple comment utiliser l'intelligence artificielle, c'est un bon contenu parce que ça va aider, mais là vous allez voir peut-être ces 10 personnes qui ont vu la publication ou qui ont aimé, qui ont commenté, mais si moi je viens, grâce, je viens avec... peut-être même avec une fausse information sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer que non, en tout cas, la guerre entre Rebecca et Emmanuel est loin de se terminer. Voilà que Rebecca a étranglé Emmanuel en plein jour. Là, vous allez voir
tout le monde
toute une ribambelle de réactions. Comment expliquer cette observation-là?
Votre observation est toutefois normale. C'est ce que nous aussi, ça nous inquiète comme étant jeunes. On voit que nous qui créons de la bonne qualité, on n'est pas mis en évidence que les gens qui créent la mauvaise qualité qui détruisent le développement de la jeunesse. Par exemple, vous verrez les influenceurs qui dansent sur TikTok, qui dansent aux mauvaises chansons, qui font que peut-être bouger d'autres parties de leur corps. Ces gens-là sont les premiers à avoir des contrats qui financent les danses-là qui sont en train de danser. Mais vous verrez les jeunes qui s'est dit « Non, j'organise une très bonne formation qui est peut-être gratuite. » Et les mêmes boss ne soutiennent pas ces jeunes-là. Donc vous comprenez, quelque part même dans la Bible, on dit « On reconnaît des bons fruits par leurs œuvres. » Vous voyez. Donc la bonne qualité, on la reconnaît par leurs œuvres. C'est pourquoi Radio Okapi nous a appelés. Ce qui montre que Radio Okapi mise sur la bonne qualité et pour promouvoir la bonne qualité. Et ce qu'on pourrait demander seulement aux autres bailleurs des fonds, aux autres boss qui soutiennent les gens qui sont là que pour danser, ils peuvent revoir leur façon de penser. Parce qu'ils continuent à leur donner cet argent, c'est comme s'ils leur disent « Continuez à faire ce que vous faites là. » C'est ça ce qui est bon pour la jeunesse. Et c'est comme ça que la jeunesse peut tomber dans ces délires où on voit tout le monde maintenant. Pour se faire carrière dans la vie, il faut danser sur TikTok, il faut danser sur Facebook. Donc c'est qu'on pourrait appeler les gens qui leur financent pour que ces systèmes des talana puissent terminer. Ils doivent cesser de financer ceux qui ne construisent pas la jeunesse. Et contraire, financer ceux qui sont là pour construire la jeunesse avec des contenus et avec des formations en numérique, en agriculture, en entrepreneuriat. Et c'est ça les conseils que je pourrais donner aux gens qui soutiennent ces gens-là. Et aussi aux internautes qui aiment qui est des vidéos dansantes. Changeons, s'il vous plaît, notre façon de voir les choses. Cherchons des contenus qui construisent.
Ils disent que ça détend.
Ah oui, c'est bien vraiment d'être dans les délires. Mais quel genre de délire?
Il y a un temps aussi pour tout.
Ouais, c'est pas mal de danser, c'est pas mal d'être en délire. Mais est-ce que c'est notre vie de tous les jours d'être en délire? Si c'est notre vie de tous les jours, là, la jeunesse est en train d'être gâchée. Mais si c'est comme Radio Capifé, il nous donne l'espace, on parle de ce que la jeunesse est en train de faire et on construit, on informe. On transforme notre jeunesse, ça c'est ce qui est à soutenir.
Ah, puisque vous avez parlé aussi de la création des contenus au cours de cette formation, aujourd'hui il est difficile d'identifier ou de savoir qui est créateur des contenus, qui est influenceur, qui est ceci, cela. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces différents concepts? Qui est influenceur, qui est créateur des contenus?
Très bonne question. Je sais souvent, il y a des réglementations qui précisent qui est qui et qui doit faire quoi. Et il y a aussi un problème dans d'autres cas. Il y a quelqu'un qui n'est pas au courant des réglementations des domaines, peut-être en création des contenus ou à ce qui est d'être influenceur, mais il se lance dans ce monde. C'est pourquoi nous voyons souvent, il y a notre comité des censures. Des fois même, quelqu'un qui n'est pas reconnu comme créateur des contenus a, à un certain moment, son contenu est censuré. Mais par quel document on reconnaît cette personne-là comme créateur des contenus national ou provincial? Que tous les jeunes soient informés sur le cadre réglementaire de ces métiers. Le fait d'être influenceur et créateur de contenus. Parce que quelqu'un peut créer les contenus tout en étant invisible. C'est comme le communicateur digital de votre page. On ne le voit pas, mais il nous nourrit avec du contenu chaque jour. C'est du contenu mélangé image, test, vous voyez. Mais il y a d'autres encore qui créent l'image des contenus physiques. Entrer des dansers, il s'est qualifié pour être influenceur. Et je ne sais pas si c'est par quel document on le reconnaît qu'il est influenceur ou par quelle réglementation. Donc moi personnellement, je ne pourrais pas donner une différence absolue. Mais ce que je pourrais nous dire, on peut se baser sur nos réglementations. Ça, ça nous permettra. Et si peut-être les créateurs de contenus sont enregistrés, les influenceurs sont reconnus avec un document auprès de l'État, et voilà. Ça va même nous aider à éviter les tricks des dansers sur TikTok parce qu'on connaît quand il est créateur de contenus. Tu es créateur de quel contenu? Tu as un document qui atteste que tu es un créateur de contenu à caractère technologique. Tu es un créateur de contenu à caractère scientifique, peut-être zoologie. Quand on est spécifié comme ça, réglementé comme ça, je crois que ça, ça va nous aider à avoir des contenus très efficaces et qui vont construire la jeunesse au futur.
Ruben, au niveau des FUNA, Comment comptez-vous répercuter toutes ces notions apprises au cours de cette formation à votre niveau? Parce que c'est vrai, c'est pas tous les jeunes qui ont été à l'activité, mais si Emmanuel est passé par vous, justement parce que vous pouvez relayer aussi le message, comment vous comptez transmettre tout ce que vous avez appris aux autres?
Merci beaucoup. Et pour transmettre tout ce que nous avons appris, c'est un travail collectif, hein, puisqu'il y a eu plus de 60 jeunes qui ont bénéficié à cette formation. Justement, que ça sera un travail collectif, moi en tant que leader, ainsi que d'autres jeunes qui ont bénéficié de ces programmes. Et nous avons appris beaucoup de choses, par exemple en ce qui concerne la photographie. Nous avons appris aussi des personal branding. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à parler positivement de ce que je sais faire? Parce que moi, je dois parler de mon engagement avec U-Report comme une passion. Ce que je sais faire avec U-Report, je sensibilise. Par exemple, en ce moment-ci, j'ai sensibilisé sur le choléra. Donc, j'encourage les jeunes, les parents à se faire vacciner contre le choléra. Pourquoi? Parce que les vaccins sont disponibles, les vaccins sauvent tandis que le choléra tient. Et comment je peux profiter de ce que j'ai appris à la formation en ce sens, par exemple? Je dois commencer à communiquer et sur terrain et sur mes réseaux sociaux. Donc, chaque fois que je vois les vaccinateurs passer, c'est pour moi un moment d'observer et de voir autour de moi si je vois qu'il y a des filles ou des doutes. C'est en ce moment-là, en tant que reporter, même si je ne suis pas en t-shirt, je dois profiter, passer auprès de ses parents, leur dire que voilà l'avantage du vaccin. Parce que moi-même, je me suis aussi fait vacciner. Et en dehors de ça, nous avons beaucoup de messages sur nous, les jeunes. Parce que comme vous l'avez dit avec Emmanuel, les jeunes ont tendance à se laisser influencer par des futilités plutôt que par ce qui peut sauver la société. Par exemple, nous allons voir que nous, quand nous partons, étant donné que nous sommes des bénévoles, il y a d'autres jeunes qui viennent vers nous pour s'informer et savoir qui sommes-nous, que faisons-nous. Quand nous leur disons que nous sommes des bénévoles, voilà, vous pouvez vous associer à nous, il y a beaucoup qui se découragent, il y a beaucoup qui nous fuient. Pourquoi? Parce que comment je peux faire quelque chose et ne rien gagner? Et c'est justement en ce moment-là que nous profitons pour leur dire. Je prends toujours des exemples concrets pour ce qui concerne des maladies contagieuses, par exemple. J'habite à Kalamu dans mon avenir. Lorsque je constate qu'il y a une maladie, est-ce que je dois attendre que quelqu'un d'autre puisse quitter chez lui, venir chez moi pour dire à mes parents, pour dire à ma famille, voilà, il y a une telle maladie, voici les gestes et barrières. Non, voilà pourquoi nous, les jeunes, des reporters, moi en tant que leader, j'essaie toujours de faire profiter aux jeunes qui sont autour de moi, de comprendre que tout ce que nous avons appris dans cette formation, nous pouvons commencer déjà à partager ça avec les gens qui sont autour de nous. La plupart parmi nous sont des élèves qui sont déjà en sixième et des universitaires. Ils doivent déjà commencer à partager ce que nous avons appris lors de cette formation autour d'eux, à l'université. Pourquoi ne pas associer les amis pendant la pause et parler par exemple de comment créer un compte professionnel, comment avoir une personnalité sur Internet, parce que nous ne pouvons pas parler de tout. Nous sommes ceux de la médecine. Pourquoi ne pas profiter de notre personnalité sur les réseaux sociaux et parler par exemple de ce que nous voyons à la médecine, essayer de faire des recherches, à faire des comparaisons par rapport aux étudiants d'autres pays et par rapport à comment on nous enseigne ici. On essaie un peu de parler positivement de la qualité de ce que nous avons ici dans notre pays, en ce qui concerne par exemple la faculté des droits et comment on doit savoir aller faire seulement en appliquant ce que nous avions appris lors de la formation des bootcamping, parce qu'on nous a vraiment appris comment avoir une personnalité professionnelle. Même si on est étudiant, on peut déjà poser des bases pour qu'un jour on puisse nous repérer et qu'on puisse nous utiliser d'une façon positive.
Rebecca, vous aussi, comment comptez-vous répercuter les messages ou les notions apprises aux autres jeunes qui n'ont pas été là ou qui ne suivent pas l'émission 100% jeunes?
Bon, moi, de ma part, j'ai conseillé aux jeunes comme moi de participer, d'intégrer d'abord une communauté U-Report. Parce qu'avec la communauté U-Report, nous avons plusieurs opportunités. On a de formations gratuites qui se lancent et si j'ai pu participer à cette formation bootcamp, c'était grâce à U-Report. Et pendant cette formation, j'ai bénéficié d'une connaissance vraiment vaste et puis pratique et j'ai développé la création des photos, des vidéos, des qualités avec mon smartphone. Et j'ai également développé des compétences sur comme les personal branding, créer son image de marque. Maintenant, je conseillerais à mes confrères, filles, garçons, de se lancer en fait dans une communauté U-Report parce que c'est gratuit et vous aurez accès à des formations gratuites. Parce que ces formations, ça aide à renforcer la confiance et aussi à renforcer une compétence professionnelle. Parce que nous voyons que ces derniers temps, le digital prend son envol. Et si nous restons freinés simplement par ce que nous recevons à l'université ou à l'école, beaucoup plus théorique, on ne va pas avancer parce que le digital avance. Lorsque nous avançons, le digital aussi avance. Et voilà pourquoi je conseillerais à d'autres jeunes comme moi de pouvoir commencer déjà à se lancer de façon positive du côté du digital. Donc de trouver des formations, de participer à ce genre de formations parce que ça va les aider à avoir une confiance qui est beaucoup plus ferme, à créer une compétence professionnelle.
À se vendre, très positivement justement sur les réseaux sociaux. Alors vous avez parlé tout à l'heure de la prise des vidéos, des photos de très bonne qualité. Oui. Je reviens à cette question. C'est quel genre de vidéos ou quel genre de photos qu'il faut prendre? Parce que moi, je peux prendre une très belle photo, mais qui raconte de n'importe quoi. Oui, alors, quel genre de photos ou de vidéos qu'il faut mettre sur les réseaux sociaux pour justement attirer le monde d'emploi, pour influencer positivement?
On doit prendre des photos qui respectent la personnalité humaine. Mmh. On ne peut pas prendre des photos n'importe comment, n'importe où. On nous a montré les techniques, à quel moment on doit prendre des photos et dans quel contexte on peut prendre une photo de bonne qualité. Donc, avec cette formation, j'ai appris comment avoir des belles photos et puis dans quel contexte et puis de respecter aussi la personnalité de la personne.
Mais aujourd'hui, nous constatons, peut-être Emmanuel va aussi répondre à cette question, qu'à la recherche de ce que nous appelons les buzz, même des choses qu'on ne peut pas filmer, on filme, surtout les jeunes, on filme et on est les premiers à publier. Pour qu'on dise juste c'est tel qui a publié, on a autant de vues, on a autant de commentaires, autant de j'aime, parce que parfois nous voyons même des jeunes qui sensibilisent, qui supplient les autres à aimer leur publication. Comment vous, en tant que jeune qui sensibilisez les autres dans la communauté, vous faites face à cette réalité? Je pense que Ruben aussi peut répondre à cette question. Hein.
Oui, merci beaucoup. Hein. Tout d'abord, nous, en tant que reporters, c'est de ça qu'il s'agit pour nous, les jeunes. Parce que nous sommes là pour influencer positivement. En ce qui concerne la prise d'image, nous savons que nous sommes dans un pays où il y a des lois. Et il y a des lois qui protègent l'image, par exemple. Quels sont les types de photos que nous devons prendre? Et est-ce qu'il est permis de prendre des photos n'importe quand? Ou bien de prendre tout le monde en photo. Non, nous connaissons aussi que la loi aussi protège les images, il y a les droits d'image qui est aussi mis en jeu. Mais pour cette formation, c'est que nous avons appris, il s'agit des photos qui vont attirer d'autres personnes, surtout en ce qui concerne les côtés professionnels. Par exemple, lorsqu'il y a des réceptions, lorsqu'il y a des forums, lorsqu'il y a nos activités en tant que reporter, c'est en ce moment-là que les amis peuvent nous prendre en photo et mettre ça sur Internet. Et en ce qui concerne la prise d'image et ce que font les jeunes aujourd'hui, en tout cas, Monsieur Grasse, permettez-moi, c'est vraiment triste. Et il n'y a pas longtemps, il y a presque 2 mois, je crois, il y a une fille qui s'est fait agresser à l'université, entre guillemets, non loin de l'université de Kinshasa, par son copain. Et quelques minutes après, la vidéo a été relayée et massivement partagée, même sur les statuts d'autres jeunes qui sont justement là, qui devraient intervenir. Mais ils ont pris la vidéo pour relayer ça et pour se moquer de la fille.
Et en quoi cela peut influencer la communauté?
Voilà. Nous allons dire que ce genre de vidéos où on prend de la violence, où on fait la promotion de la violence, ça n'influence pas positivement. Par contre, ça donne un mauvais conseil. Pourquoi? Parce que ceux qui regardent, ils sont influencés par ça. Ils se diront que voilà, lorsqu'il y a une violence, au lieu d'intervenir, je dois filmer et puis partager pour me faire de vie, pour devenir influenceur. Mais nous, en tant que reporters, qu'avons-nous fait pour ces cas précis? Nous avons d'abord lancé une campagne en ligne à You Report Kalamu, où nous avons essayé de notre manière, sans formation bien sûr, nous avons essayé un peu de créer des contenus pour sensibiliser sur la lutte contre les violences physiques dont sont victimes la plupart les jeunes filles. Nous avons sensibilisé sur ça en ligne. Et sur terrain, nous avions aussi le temps de descendre au niveau des écoles, surtout dans les écoles mixtes, pour essayer un peu de parler, de sensibiliser les élèves, d'avoir des échanges avec eux, pour leur faire savoir que entre les garçons et filles, c'est la complémentarité. Nous ne sommes pas en guerre. Les garçons, nous ne pouvons pas considérer des filles comme si elles ne sont que des êtres où nous pouvons les violenter à tout moment, donc physiquement ou d'une façon qui...
Elles méritent respect.
Elles méritent respect, bon oui. Voilà. Et nous devons vivre en collaboration avec les filles. Nous avons lancé une série de sensibilisations. C'était pendant 7 jours où nous avons relayé les messages stop aux violences physiques, stop aux violences faites à la jeune fille. Et nous avons des très bons résultats. Pourquoi? Parce que une semaine après, il y a une autre communauté qui a emboîté les pas. Et c'est ça, New You Report. Donc, nous posons des actions pour influencer positivement et pour inspirer d'autres jeunes à emboîter les pas et à nous suivre.
Pour conclure cette première partie, hein, Emmanuel, de manière très 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 brève, comment tous ces jeunes qui nous écoutent peuvent se vendre, cette question revient, se vendre professionnellement sur les réseaux sociaux et quelles sont les plateformes à utiliser qui sont crédibles et comment utiliser ça?
Excellent, Monsieur Grasse, merci pour cette question. Comme nous l'avons dit précédemment, on a parlé presque de tout, de comment prendre une très bonne photo, comment réaliser une très bonne vidéo, comment créer du bon test, comment bien se vendre sur les réseaux sociaux. Alors, à ce qui est de plateforme, tout le plateforme peut donner aux jeunes de l'emploi. Mais c'est aux jeunes de savoir comment mieux utiliser les plateformes pour vendre ce que l'on sait faire.
Facebook
a aidé beaucoup de gens à décrocher les boulots. Il y a même des gens qui sont devenus les SEM de beaucoup d'entreprises grâce à Facebook. Nous avons Instagram aussi qui aide beaucoup de gens. Pour voir que ça donne de l'emploi, il y a des gens qui vendent grâce à Facebook. Il y a des gens qui vendent grâce à TikTok. Il y a des gens qui vendent grâce à Instagram. Alors, pour évoluer et voir l'international, nous avons le réseau social des professionnels qu'on appelle LinkedIn, dont a parlé Rebecca et Ribin. Créer un compte optimisé. Suivre une formation des bootcamps peut-être dans les districts de Tiangou qu'on va organiser la semaine prochaine. Vous venez, vous suivez, on vous montre comment créer un compte LinkedIn. Vous créez un compte LinkedIn, vous mettez en évidence vos compétences. Chaque semaine, deux ou trois fois, publiez les contenus sur ce que vous savez faire. Quand vous prenez part aux grands événements et ce que ces événements vous apportent, c'est de cette façon qu'un jeune Congolais peut se vendre très bien dans son propre pays et à l'international. Et pour ceux qui ont des métiers d'influenceurs et des créateurs de contenus, essayez un peu de se spécialiser dans quel type de contenu tu te décides de créer et avec quel impact aura ces contenus sur la jeunesse, sur tes petits frères. Ne sois pas de celui-là qui crée les contenus pour détruire sa petite sœur, mais sois de celui-là qui crée des contenus pour relever les défis, construire l'avenir de son frère, construire son propre avenir et construire la bonne réputation de la République au niveau international pour avoir beaucoup d'accès. Parce que vous savez, suite au contenu pas un peu normal qu'on crée, beaucoup à l'intérieur de notre pays ont la réputation que nous sommes ambianceurs. Pourquoi? Parce que sur nos TikTok, ce n'est que des danses, alors qu'il y a nos sœurs et nos frères qui vendent sur TikTok. Donc si on essaye un peu de revoir ces qualités des contenus, nous serons une jeunesse qui va bien vendre le pays. Et quand la jeunesse est instruite et se vend bien sur les réseaux sociaux, c'est le pays qui est respecté et ces jeunes-là qui ont beaucoup d'opportunités. Et on verra les jeunes qui seront engagés dans beaucoup d'entreprises.
Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous suivez le magazine 100% Jeunes, votre magazine hebdomadaire qui accorde la parole à la jeunesse sur Radio Capi, la fréquence de la paix. Et dans ces studios, nous avons nos invités qui nous parlent justement de l'importance du numérique, de l'importance des réseaux sociaux dans la vie professionnelle, particulièrement chez les jeunes. Alors, Emmanuel, au cours de cette formation, vous avez aussi développé les sujets sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, IA. Nous abordons aussi ces sujets. Brièvement, c'est quoi d'abord l'IA?
Permettez-moi, comme un vrai Congolais, hein, de jeter les mabanga, on a parlé avec Espoir Lomengo, qui est un jeune chercheur en intelligence artificielle et générative. On était aussi avec David Mukendi, qui est même le DG des Digital Skills, lui aussi était intervenant. Alors, pour faire comprendre les participants, c'était quoi l'intelligence artificielle, on était parti des exemples simples. L'intelligence artificielle n'est rien d'autre que l'imitation de l'intelligence de l'homme par des machines. L'intelligence artificielle, c'est une technologie des systèmes d'information informatique. Donc, on parle des systèmes d'information expérimental. Dedans, nous retrouvons le robotisme et l'intelligence artificielle. Tout robot n'est pas intelligence artificielle. Et toute application n'est pas intelligence artificielle. On a des applications qui marchent sous algorithme d'intelligence artificielle et on a des robots qui marchent sous algorithme d'intelligence artificielle. Et on avait montré en long et en large aux jeunes comment utiliser l'IA génératif pour générer les tests les tests peut-être, tu peux faire une brochure en entièreté grâce à l'IA. Mm-hmm. Comment créer les tests pour publier sur tes réseaux sociaux? Donc, être un communicateur digital, mais accompagné par l'intelligence artificielle. Comment utiliser l'IA pour créer des vidéos, des deepfakes? On les a aussi montré comment utiliser l'IA pour amplifier sa productivité dans n'importe quel domaine.
Et comment utiliser, brièvement?
Pour utiliser l'IA de la bonne façon, il faut développer une compétence, des compétences plutôt. Premièrement, il faut d'abord apprendre à comprendre c'est quoi l'interface d'une application qui marche sous les algorithmes d'intelligence artificielle. On les a appris c'est quoi l'interface ChatGPT, c'est quoi l'interface Sino, c'est quoi l'interface Gemini. Et on avait fait l'effort même d'utiliser Claude, hein, qui fait actuellement buzz avec ChatGPT. Et on les a aussi montré c'est quoi les prompt engineering. Les prompt engineering, dont l'ingénierie des requêtes. Comment parler à l'intelligence artificielle de la bonne façon afin que l'intelligence artificielle puisse nous donner des très bonnes réponses. Parce que beaucoup de gens disent, oh, l'intelligence artificielle, ça hallucine, ça donne des mauvaises réponses. Mais est-ce que tu lui as bien parlé pour que lui puisse bien te répondre? Et l'exemple simple qu'on avait utilisé, c'est, tu es congolais, tu comprends que Lingala, Chiluba, Swahili et Kikongo. Et Shikaben, tu es en Chine. Tu ne connais pas parler anglais ni la langue chinoise. Est-ce que tu sauras communiquer avec les Chinois? Non. C'est un problème de quoi? Des langues. Alors, tant que tu ne connais pas parler aussi en intelligence artificielle, tu t'attends à quoi? Alors, on les a montré comment créer des prompts optimisés. Commencer d'abord par donner un rôle à l'application qui marche sous l'algorithme d'intelligence artificielle. Vous lui donnez un rôle peut-être d'un médecin, d'un journaliste comme vous, Messie Grasse, d'un expert en droit. Et après, vous lui donnez le contexte de votre question. Parce qu'il y a souvent les gens, tu peux lui poser une question, comment tu vas? Il dit, je suis bien, mais en réalité, il n'est pas bien.
Pas bien.
Pourquoi? Parce que vous n'avez pas précisé dans quel contexte que vous lui demandez s'il est bien ou pas. C'est comme ça aussi avec l'IA. Si tu veux lui poser une question, c'est tous les IA génératives, donne à l'IA un rôle, donne-lui les contests. Après les contests, donne-lui les tâches à réaliser. Dis-lui ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire et dis-lui à te donner la réponse.
En quoi l'IA peut transformer la vie, particulièrement la vie professionnelle des jeunes?
Très bien, c'était même ça les plus grands sujets. Hein. Les gens disent l'IA va remplacer l'humain, l'IA ne va pas remplacer l'humain. Alors, lors du bootcamp, on expliquait aux amis de prendre conscience d'une chose. En informatique, on crée une application pour résoudre un problème. L'IA n'est pas une application, mais c'est une technologie vaste. Mais une application qui marche sous l'intelligence ou les algorithmes d'intelligence artificielle est créée pour résoudre un problème. Si c'est un problème de test, cette IA est entraînée et il découvre une connaissance approfondie qui peut, en mesure du possible, dépasser l'homme à ce qui est dégénéré du test. On connaît que l'intelligence, c'est la connaissance qu'on a dans un domaine précis. Et quand l'IA, nous manquons des connaissances, et l'IA nous donne des connaissances sur un domaine précis qu'on veut apprendre, si vraiment on peut considérer l'IA comme notre professeur. Et du coup, on peut dire que l'IA, jusqu'à ce point, est un peu intelligent plus que nous. Alors, j'avais dit aux jeunes, nous devons être hyper réalistes sur certains points. On ne doit pas halluciner des idées sur l'IA. L'IA, c'est une technologie très vaste, mais toutes les applications qui sont créées sous l'algorithme d'intelligence artificielle sont créées pour résoudre un problème. Donc, si c'est créé pour créer les images, rassurez-vous, les images que cette IA va créer, si ça a un bon prompt, peut sortir une très bonne image. Les tests que l'IA va vous donner, si c'est une IA générative destinée à générer les tests, sachez bien que ça va vous donner de très bons tests qui sont en accord en tout et pour tout. Pourquoi? Parce que ça a été entraîné à accomplir cette tâche. Et je crois que quand vous aurez peut-être un réel plaisir d'être là dans des bootcamps, les uns qui auront le réel plaisir d'être dans le bootcamp, cette question-là, on aura plus à donner des précisions vu que dans l'émission, on n'a pas trop de temps que ça, mais c'est grâce.
Exact. Alors, Ruben, aujourd'hui, nous avons aussi constaté qu'il y a certains jeunes ou certaines personnes qui utilisent abusivement l'IA. Emmanuel vient de parler tout à l'heure que ça peut vous aider à générer des images, ça peut vous aider à rédiger des très bons textes. Mais nous voyons d'autres jeunes qui utilisent IA pour sortir des images provocatrices. Hein. Moi, personnellement, je vais vous faire rire. Quelqu'un m'a déjà envoyé une photo. Je suis en train de faire un mariage. Quel conseil donner à ces jeunes-là, Ruben?
Oui, merci beaucoup, Monsieur Grasse. Tout d'abord, j'aimerais un peu rester dans notre milieu. Donc, moi, en tant que reporter, parce que tout ce dont nous avons eu à bénéficier au bootcamp revient toujours dans les 8 engagements en tant que reporter. Parmi nos engagements, il y a le 7e engagement qui nous dit que quand on est reporter, on doit utiliser l'Internet d'une manière responsable. Alors, comment on doit utiliser l'Internet d'une manière responsable? Tout d'abord, nous sommes appelés à prendre la parole. Mm-hmm. À prendre la parole. Pourquoi et quand? Ça, nous devons toujours réfléchir. Et puis, nous devons aussi dénoncer les abus sexuels. Nous devons aussi parler sur les droits des enfants. Et nous devons aussi passer à l'action lors de nos activités sur le terrain et rapporter. Voilà justement comment l'IA revient, où l'IA vient pour nous aider. Et en dehors de ça aussi, nous pouvons parler aussi de l'environnement, par exemple. Quand nous utilisons les intelligences artificielles abusivement, alors que les centrales des intelligences artificielles fonctionnent à partir de l'eau, c'est là où il y a un problème. Je peux m'amuser à générer des images, par exemple, pour me moquer d'un ami ou d'une personne publique, mais je dois savoir que utiliser ça abusivement, je suis en train de travailler contre la nature. Parce que l'environnement vient aussi à ce qu'on puisse utiliser les ressources dont nous disposons d'une manière rationnelle. Donc, si on veut utiliser l'intelligence artificielle en tant que reporter, on doit l'utiliser d'une manière responsable. Par exemple, pour savoir comment je peux rapporter brièvement et d'une manière compréhensive les messages sur l'hygiène menstruelle, par exemple. Comment, par exemple, je peux rapporter les messages sur ce que j'ai appris lors du bootcamp. Vous pouvez générer cette pensée et vous aurez une explication brève et ça va vous aider de mettre sur vos réseaux sociaux. Mais si nous voulons considérer l'IA comme un outil de blague, là, nous abusons. Parce que n'oublions pas que dans notre pays actuellement, ceux qui abusent sur l'image, il y a des sanctions. La loi sanctionne ces gens-là. Nous, en tant que jeunes reporters, il était question pour nous de voir comment nous pouvons quitter la théorie. Quand nous parlons, je dois utiliser l'Internet d'une manière responsable. Quelle est cette façon responsable pour nous d'utiliser l'Internet tout en associant les intelligences artificielles, par exemple Gemini, Claude et tout ce qu'on nous avait appris lors des bootcamps. Et c'est ce que j'avais partagé aussi avec les amis après pour qu'on puisse avoir ces connaissances-là et les mettre en pratique déjà dès que nous avions fini la formation.
Emmanuel, vous avez quelque chose à ajouter?
C'est par rapport à ce que Ribin a dit, mm-hmm. c'est hyper important à ce qui est d'abuser des IA. Mm-hmm. Il y a des technologies qu'on appelle les deepfakes. C'est ce qu'on vous a fait. Hein. Mm-hmm. Les deepfakes, c'est l'effet de manipuler une image, photo, voilà, ou vidéo, changer des contextes grâce à l'IA. Donc on peut vous prendre, on prend seulement votre photo, on vous fait danser. C'est un deepfake. Et un deepfake, c'est quoi? C'est une photo, une vidéo, les audios ou le test dont on a changé les contextes. Dans quel objectif? Dans l'objectif de désinformer la personne. Et comme il y a des règles ISO qui régissent déjà les deepfakes, c'est pourquoi on dit toujours à notre période, la vérité dépend de la personne qui croit en quelque chose qui est vrai. Pourquoi? Parce que regardez votre vidéo, on a changé des cadres, on a pris seulement votre image, on vous a fait marier. Et il y a de ces personnes qui ont accepté que bien, vous avez été marié. Là, c'est utiliser abusivement l'IA. Alors, à ce qui est des gestions des deepfakes, s'il y a des réglementations, parce que c'est ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes se sont lancés à générer des vidéos, des photos, des audios avec l'IA. Alors, si on a des cadres réglementaires qui nous aident, qui doit créer les deepfakes éthiques et qui ne doit pas créer des deepfakes éthiques, là, ça serait mieux. Parce qu'il y a les deepfakes qui sont là pour désinformer, mais il y a aussi des deepfakes qui sont là pour informer et former. Peut-être ce qu'on utilise dans les écoles avec des bandes animées actuelles, mmh, qui sont créées grâce à l'intelligence artificielle. Mmh. Ce sont des deepfakes éthiques. Et ça, on peut encourager à les faire, mais les non-éthiques, on peut chercher des cadres réglementaires, surtout grâce au ministère de l'économie numérique. Si on a ces cadres ou si ça existe déjà, on informe tout le monde. Je crois qu'on évitera trop les abus. Et comme l'a dit Ribin, l'IA, chaque prompt qu'on envoie à l'IA a de l'effet de consommation en eau et en électricité. Et avec les data centers actuellement qu'on construit en RDC, quand on aura des IA locales, si on ne fait pas attention, on risquerait d'avoir un problème de courant et de l'eau. C'est ça même ce qui est à la base des changements climatiques.
Bien noté, Emmanuel. Alors, Rebecca, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez appris de l'IA, de l'intelligence artificielle et comment vous utilisez cet outil?
Ce que j'ai appris de l'IA, c'est la création. J'ai pu créer des musiques avec Suno. Uh-huh. J'ai créé une musique, j'ai généré une musique. J'ai également créé des affiches avec Canva. Et j'ai généré des tests à partir des chats et copilotes également. J'ai également appris à manipuler le Microsoft 365. Uh-huh. Les différentes plateformes qui sont à l'intérieur. Et j'ai également appris à utiliser, en fait, à innover. Avec l'IA, j'ai vraiment beaucoup appris l'innovation et aussi la création de certains contenus.
Quel message et quel conseil adressez-vous à tous ces jeunes, particulièrement les jeunes filles? Et ça sera votre mot de la fin.
Ok, merci beaucoup. Le conseil que je donnerai aux jeunes, c'est d'utiliser l'IA avec un esprit critique et responsable. Ils ne doivent pas s'amuser à créer, comme M. Emmanuel l'avait dit. Ils ne peuvent pas se mettre à se divertir d'une manière abusive avec l'IA, mais ils doivent utiliser de façon responsable et avec un esprit critique. C'est un peu ça.
Ruben, quel conseil rapidement à tous les jeunes en quelques mots par rapport à l'intelligence artificielle?
Certainement que dès qu'on découvre l'IA, nous avons l'habitude de nous amuser un peu avec. Hein. Les conseils que je pourrais donner aux jeunes, c'est seulement qu'ils essayent d'être réalistes et d'utiliser l'intelligence artificielle d'une manière rationnelle. Non pas dans le but de nuire ou de s'amuser, mais dans le but de l'utiliser pour acquérir soit des compétences ou soit pour se développer dans un domaine donné.
Rapidement, Emmanuel, quelles sont les étapes qui vont suivre après Funan?
Après Funan, les bootcamps sera Tiangou. Et après Tiangou, ça sera Lukunga. Et après Lukunga, ça sera Mwamba. Et après avoir fait des formations de 60 jeunes dans l'ensemble de nos districts, on aura l'événement des graduations pour remettre des brevets à tout le monde. Ça sera les 60 de nos 4 districts rassemblés au même lieu. Et c'est comme ça qu'on pourrait les
sortir. Et ceux qui sont dans les provinces?
Et ceux qui sont dans les provinces, c'est le plus grand problème. Beaucoup pleurent déjà, mais nous, on aura notre bootcamp quand? Et notre équipe de Digital Skills, motivée que nous sommes en train de travailler dessus pour combler aussi les besoins numériques de nos amis qui sont en province, accompagnés toujours des plateformes U-Report qui sont dans ces provinces.
Emmanuel Kabamba, c'était un grand plaisir de vous recevoir dans 100% Jeunes.
Merci, Monsieur Grasse. C'était un plaisir, un privilège d'être sur votre plateau.
Ruben Bongambo, merci d'être passé dans notre émission.
Merci beaucoup.
Et Rebecca Molanga, merci d'être venue. Au revoir et surtout, bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup, Monsieur Grasse.
Voilà qui met fin à ce numéro des 100% jeunes consacré à l'engagement des jeunes dans le développement de leurs compétences numériques et professionnelles. Nous espérons que ce magazine vous aura inspiré et donné des pistes concrètes pour mieux vous préparer au marché de l'emploi. Cette émission a été réalisée par Sephora Mpaka avec la mise en onde assurée par Pierre Diassinois. Présentation et coordination grâce à Mzati Masanzi sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, Mofele les Dijanon. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro des 100% jeunes sur votre radio.